J'ai tous mes soldats qui me demandent qu'est-ce qu'on fait pour redresser un peu la vérité par rapport à ces mensonges.
Alors, moi, ce que... Turquoise est arrivé trop tard, sûrement. Mais ça, les militaires français n'y sont pour rien. Je dirais, messieurs les politiques et mesdames les organisations internationales, balayez devant votre porte, pourquoi est-ce que Turquoise est intervenu si tard? Moi, quand je suis arrivé au Rwanda, pour faire Turquoise, eh ben, je venais pour une mission noble, s'il en est. Comme à Kolwezi en 78, avec l'opération que mon régiment avait faite, pour y sauver des vies humaines. Bon, et donc ça, ça nous animait tous, tous très fortement. Ce que je crois vraiment, c'est que nous avons sauvé des milliers, des dizaines de milliers de vies. Ça, c'est clair. On aurait pu en sauver beaucoup plus si on était intervenu un mois plus tôt. Ça, c'est clair aussi. Mais nous avons quand même fait ça. Et je voudrais dire aussi, parce que pour moi, il n'y a pas de mauvaise ethnie ou de mauvaise vie, je pense qu'aussi nous avons sauvé des vies hutues en masse, en arrivant à les convaincre de ne pas s'enfuir aux Zaïre, en leur disant « mais si vous n'avez rien à vous reprocher, mais que voulez-vous qu'il vous arrive? Restez sur vos terres, restez dans vos villages, continuez à vivre, parce que vous allez mourir en exil. » Bon, donc nous avons, je pense, à notre crédit, des vies tutsi sauvées, en nombre important, et des vies hutues sauvegardées également en grand nombre de gens qui sont restés au Rwanda pour continuer à y vivre et à y mener leur vie de paysan et leur vie sur leurs collines.
Lord de Vulpian, bonsoir.
Bonsoir.
Vous travaillez depuis 5 ans sur le génocide au Rwanda et ses conséquences judiciaires. Vous avez d'ailleurs fait plusieurs reportages pour France Culture au Rwanda. Alors ces plaintes, sur quels faits portent-elles ?
Alors, il faut d'abord comprendre que la complicité de génocide correspond au cadre global des plaintes. C'est le contexte, en quelque sorte. Après, dans le détail, les faits reprochés à des soldats français non dénommés sont, précisément, des viols, des meurtres, des faits de non-assistance à personne en danger ou d'aide apportée à des génocidaires, etc. Des faits sur lesquels la juge, devant le tribunal aux armées, va devoir instruire. Il en ressort, pour l'instant, 2 accusations centrales, qui restent à prouver. La première concerne Bicécéro. Bicécéro, dans la province de Kibouye, est une entité à la fois géographique et administrative. C'est un ensemble de collines assez vaste, dans une zone quasi montagneuse, qui de tout temps a surtout été peuplée de Tutsis. Bicécéro est aussi un site historique, dans la mesure où c'est un haut lieu de la résistance Tutsi depuis 1959, qui est l'année où ont commencé les pogroms menés sur ordre du régime de l'époque. Fin juin 1994, donc, les Français de l'opération Turquoise entrent progressivement au Rwanda, ils se rapprochent de Kibouye, puis de Bicécéro, qu'un tout petit groupe de militaires découvre le 27 juin. Archives de Radio France Internationale.
Christophe Wabouvier, vous êtes en ligne avec nous depuis le Rwanda. Vous étiez avec les militaires français qui ont pris contact avec ces clandestins, avec ces Tutsis de la montagne.
Oui, ça s'est passé de façon assez inattendue. Une petite colonne française de commandos de l'air a emprunté une piste de montagne à une trentaine de kilomètres au sud de Kibouye, dans un endroit où elle venait d'entendre des coups de feu une heure plus tôt. Et dans un virage, 3 hommes sont apparus au sommet d'un talus. Dès qu'ils ont vu qu'il s'agissait d'une colonne de blancs, ils sont descendus sur la piste. Parmi eux, un homme d'une trentaine d'années, jean, basket, le corps en sueur, mais le regard étonnamment calme. Au bout de 10 minutes, ils n'étaient plus 3, mais une centaine, comme des fantômes surgis de la forêt, un bâton ou une lance à la main, prêts à repartir dans la brousse dès le premier danger. Est-ce que les Français peuvent faire quelque chose pour eux? C'est une question très difficile. L'homme s'est adressé au commandant de la petite colonne française. Il lui a dit « emmenez-nous ». « Je ne peux pas », lui a répondu l'officier français. « Nous ne sommes qu'une douzaine dans 3 jeeps. Mais maintenant, nous savons que vous êtes là et le fait que nous soyons passés va peut-être calmer les choses. Alors, est-ce vrai, est-ce faux ? Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est produit une scène assez étonnante pendant cette brève rencontre. Une voiture de militaires ou de miliciens rwandais est passée sur la piste devant ces Tutsis et personne n'a bronché, ni d'un côté ni de l'autre, à cause bien sûr de la présence de cette petite unité française. Une unité encore une fois symbolique. Maintenant, l'état-major français doit réfléchir. Que faire? Faire de la protection, de l'évacuation, autre chose? Il y a évidemment plusieurs possibilités.
Alors ce Rwandais qui demandait secours et protection à l'officier français Diego le 27 juin 1994 s'appelle Eric. Voilà comment il m'a raconté en 2004 à Bicécéro même ce qu'il avait vécu 10 ans plus tôt.
Bon, les soldats français, oui, je les ai vus à cette époque. Je crois que c'était le 27, je crois. J'ai appris qu'il y a une résolution des Nations Unies qui a voté pour qu'il y ait une assistance humanitaire, que les militaires français allaient venir à Bisesero pour sauver les gens qui étaient en danger. Alors, un après-midi, quand j'étais de l'autre côté, j'ai vu des véhicules monter vers Bisesero. C'était les soldats français de l'opération turquoise. Je suis allé à leur rencontre et j'ai crié à haute voix qu'ils s'arrêtent pour nous sauver puisque nous étions en danger. Je lui ai dit qu'on est tué par des personnes bien armées qui utilisaient des armes à feu, des fusils de toutes sortes, des gourdins, des grenades. Ils n'ont pas voulu comprendre directement. Mais après leur avoir montré des cadavres qui étaient encore chauds, ils ont fini par comprendre que ce que je disais était vrai. Alors, nous leur avons demandé de nous protéger puisque nous étions vraiment en danger. Ils nous ont dit non, nous ne sommes pas prêts pour vous sauver aujourd'hui. Restez dans vos cachettes comme d'habitude. Dans 3 jours, on reviendra. Ils avaient des armes, ils pouvaient nous regrouper et leur présence aller empêcher les tueurs de venir nous agresser encore, je crois. Bon, cette réponse nous a trop découragés. Nous avons vu qu'ils ne venaient pas vraiment pour nous secourir, qu'ils venaient peut-être pour une autre mission qu'on n'avait pas encore compris à ce moment-là.
Les Rwandais doivent donc attendre les secours pendant 3 jours. Et aujourd'hui, le 30 juin, les Français reviennent. Ce ne sont pas les hommes de Diego qui arrivent à Bisesero, mais quelques éléments d'un autre détachement commandé par Gillier. Parmi eux, Thierry Prognaud. En 2005, il racontait comment il avait découvert les survivants de Bisesero avec quelques collègues et contre l'avis de leur chef. Précision importante, Thierry ignorait que Diego était passé avant lui.
On allait interviewer les gens à droite, à gauche et les gens nous parlaient d'une vallée Bisesero où il y aurait des rebelles tutsis armés jusqu'aux dents. Bon, les ordres de notre propre chef, c'était de surtout pas aller là-bas. Et nous, on a décidé d'y aller. Bon, on s'est concerté, on a dit, bon, ben, demain, on va à Bisesero. Et c'est là qu'on a découvert le poteau rose, en fait. C'est une vallée où 10 000 tutsis avaient été tués. Il en restait 800 dans un état lamentable. Là, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était les Hutus qui se tuaient les Tutsis. Qui les massacraient, carrément massacraient, tous les jours, tous les jours, tous les jours.
Alors, une fois que vous découvrez ça, qu'est-ce que vous faites?
Là, on a rendu compte à au patron du COS, le colonel Rosier, qui est venu immédiatement, il s'est rendu compte de la situation. Et on a passé la nuit avec eux pour les protéger. Et le lendemain, on a passé le bébé au 6e Reg qui est venu nous remplacer. Et on est reparti après pour d'autres missions humanitaires et ainsi de suite.
Bisesero a donc été découvert 2 fois, le 27 juin par Diego et le 30 par les hommes de Gillier. Entre-temps, les tueries auraient redoublé, faisant plusieurs centaines, voire milliers de victimes tutsis. Conséquence, les plaignants estiment que la France a failli à sa mission de protection. Alors comment peut-on expliquer ce délai de 3 jours? Réponse du général Lafourcade.
Bon, alors personne, si vous voulez, au niveau de l'opération, on a entendu parler du compte-rendu de Diego, c'est ça le problème. Alors, il dit qu'il a fait un compte-rendu, mais personne ne l'a vu. Je ne vois pas comment un compte-rendu ne serait pas arrivé, parce que quand le deuxième compte-rendu est arrivé, je peux dire que la réaction était rapide pour aller à Bisesero et régler le problème humanitaire, parce que pratiquement on arrivait trop tard. Si le colonel Rosier, si son équipe ne sont pas allés tout de suite à Bisesero, ils n'ont rien su. Et moi, le premier, j'ai encore dans mes archives, le papier, bon, c'est le 30 ou le 31, j'ai eu le compte-rendu de Bisesero, ça démarrait tout de suite, très vite. On croyait que c'était le FPR et les forts qui se battaient. Et comme la mission était impérative de neutralité, comme on n'avait pas de renseignements importants dans cette zone-là, eh bien, il fallait y aller prudemment, et vous en conviendrez. On ne pouvait pas envoyer les soldats à toute allure dans les montagnes, se retrouver nez à nez avec le FPR, ça aurait été une catastrophe diplomatique mondiale.
Autre accusation, les hélicoptères, les gens, des Tutsis qui auraient été jetés vivants des hélicoptères.
Non mais
par oui, des militaires français.
Non, oui, ça me fait rire, hein, honnêtement, parce que je pense à certains films. On voit tant des films loufoques et grotesques où on voit des en Afrique des gens jetés par hélicoptère. Ça fait rire tout le monde. Bon, non, mais c'est grotesque, je vous le dis. Non, mais attendez. On n'est plus en Algérie. Non, mais j'ai peur que quand même les médias, les politiques, les intellectuels français savent que l'armée a changé quand même en Algérie. Il y avait un contexte qui était ce qu'il était, où on a laissé l'armée avec ses responsabilités très difficiles à remplir, et puis bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Hein, mais alors aujourd'hui, on est quand même un certain nombre d'années en arrière. Je peux vous garantir, d'ailleurs tout le monde le voit bien dans tous les théâtres d'opération, on n'est plus du tout dans le même contexte, la même ambiance, la même société d'ailleurs, hein, et les mêmes histoires. Donc aujourd'hui, c'est fini, ça, ces trucs-là, ça n'existe plus. Donc c'est de la fabulation, et puis techniquement, je peux dire, quand vous êtes dans un équipage, dans un hélicoptère, il y a toujours quelqu'un qui parle, s'il y a quelque chose qui se passe, c'est impensable. Voilà. Et est-ce qu'il faut porter plainte contre les trucs comme ça? Parce que c'est intolérable. C'est inacceptable.
Non. Deuxième accusation, donc, les vols de la mort, comme disent certains militaires français. Les plaignants, eux, sont persuadés que ce sont des Tutsis qui ont été jetés vivants des hélicoptères, mais il pourrait aussi s'agir de miliciens Hutus. Quoi qu'il en soit, le général Tauzin réfute lui aussi totalement cette accusation et il va même au-delà.
On aurait jeté des gens d'hélicoptère, mais alors c'est une connerie. Je ne vois pas, d'abord, du point de vue militaire, je ne vois pas du tout d'où ça peut procéder, de quelle logique ça peut procéder. Ensuite, dans un pays tout petit où tout se voit, bien sûr, ça se serait vu. Enfin, c'est ahurissant. Moi, franchement, je n'y crois pas. Je ne suppose pas un seul instant que Rosier ait pu donner un ordre comme ça. C'est scandaleux, ça me hérisse le poil. Voilà.
Alors, maintenant, vous vous retrouvez collectivement, hein, tous confrontés à ces plaintes. Alors, qui émanent de 6 plaignants. Pour vous, déjà, ces plaignants, c'est qui, c'est quoi, comment vous les percevez, etc.
Les plaignants, d'abord. J'ai pour eux un immense respect, non seulement comme personne humaine, parce que toute personne humaine a sa dignité, a droit au même respect de sa dignité, mais aussi parce que si ce sont des gens qui ont vécu ça, et c'est très certainement le cas, ils ont vécu quelque chose d'horrible, absolument horrible. Très sincèrement, j'ai beaucoup de compassion, si je peux dire, pour ce qu'ils ont vécu, et beaucoup de respect pour eux.
Si un jour vous êtes convoqué en tant que témoin par la juge d'instruction devant le tribunal aux armées, qu'est-ce que ça va vous faire?
Je ne sais pas comment je réagirai devant la juge. Inutile de dire que j'ai la conscience complètement claire, inutile, mais je sais aussi que ça ne suffit pas pour être tranquille.
Est-ce que vous parlerez à cœur ouvert à cette magistrate? Un militaire ne s'ouvre peut-être pas facilement de certaines choses qui ne peuvent être comprises que par des militaires, peut-être.
Parler à cœur ouvert, oui. C'est-à-dire que je ne mentirai pas. Ça serait bien. Je dirais la vérité, du moins ce que j'en ai vu de la vérité, parce qu'il y a forcément multiples facettes. Mais ce que nous avons vécu, et vous le sentez vous-même au cours de cette interview, est difficilement compréhensible par ceux qui ne l'ont pas vécu. Je dirai la vérité. Je chercherai les mots pour essayer de me faire comprendre, ce qui va être très difficile. Voilà. Mais il y a une chose qui est certaine. Je n'ai jamais cru un instant que Rosier ait pu lui donner l'ordre de balancer des types d'un hélicoptère. C'est complètement ridicule. Hein.
Un ordre d'exécuter, un ordre de ci, un ordre de ça, je ne sais pas, je ne sais pas.
Non, ça ne va pas.
Je sais bien, je vous pose des questions.
Mais non, c'est pas pensable. C'est vraiment méconnu.
Regardez l'affaire Mahé, l'affaire Poncet, là, en Côte d'Ivoire.
Oui. Dont je ne veux pas parler.
Regardez, ça peut exister. Je ne vais pas au-delà. Bien mais sûr. Pourquoi pas dans Turquoise?
Mais bien sûr que des bavures peuvent exister. Il peut y avoir des moments de tension extrême. On se trouve régulièrement dans ces opérations, dans des situations où règne un calme apparemment total, et moins de 30 secondes après, c'est un déchaînement de violence. Mais quant à dire que Rosier ait pu faire ça, Lafourcade ait pu donner... Alors là... Là, non, certainement. Et c'est bien sûr pas venu de plus haut non plus. C'est évident. Jamais personne n'a pu donner un ordre pareil.
Comment vous considérez les Tutsis d'aujourd'hui? Vous trouveriez en face d'un ancien militaire du FPR, par exemple? Est-ce que vous lui serreriez la main? C'est quoi? C'est un frère d'armes? C'est un ennemi? C'est quoi?
Bon, d'abord, c'est pas un ennemi, parce que... C'est pas comme ça que que je raisonne. Et c'est pas comme ça d'ailleurs que raisonnent en général les soldats. Hein. Moi, c'est quelque chose que me disait mon père tout enfant quand j'entrais au prétendu militaire, alors que lui il avait donc fait 39-45 ans entier d'Indochine et Algérie, donc il avait une certaine expérience. Et il me disait, d'une part, n'oublie jamais qu'un ennemi vaincu est un frère malheureux. En l'occurrence, les Tutsis ne sont pas vaincus.
Est-ce que la France est vaincue, pardon ?
Vaincue, militairement non, en tout cas. Parce qu'il y a pas, on ne s'est pas engagé, nous, militairement. Hein. Psychologiquement, ça a laissé des traces. Terrible. Hein.
Mais... Je vous ai coupé quand vous parliez de votre père, de la citation de votre père, là. Donc, oui. un ennemi vaincu est un frère malheureux.
Oui. Et puis, il me disait aussi, n'oublie pas que les militaires sur le terrain combattent toujours pour des causes qui les dépassent complètement. Alors, il faut faire la guerre à fond parce qu'il faut la gagner et parce que ta peau en dépend souvent aussi. Hein. Mais il faut aussi, autant que possible, essayer de garder un petit peu d'abord beaucoup d'humanité. Beaucoup d'humanité. Et je dis qu'on a passé beaucoup de temps au Rwanda, dans les années avant turquoise, à essayer d'humaniser un peu ces combats.
Comment ça, on peut humaniser les combats?
Ben oui, c'est-à-dire éviter, par exemple, essayer qu'on nous ramène les prisonniers. On ne ramenait jamais de prisonniers. Ni les uns ni les autres ne faisaient de prisonniers.
Et là, le général Tauzin évoque un autre volet de la présence française au Rwanda. C'est vrai que l'armée était aux côtés des forces rwandaises contre les FPR à partir d'octobre 1990 jusqu'en décembre 1993. Reste que le général Lafourcade, patron de Turquoise donc, est bien décidé aujourd'hui à réagir à ces plaintes. Il tient même un discours à la fois politique et offensif.
Je m'interroge pourquoi ces plaintes. Ça fait beaucoup de battages. Est-ce que c'est pas une occasion pour détourner l'attention par rapport à d'autres problèmes, hein. Avec notamment, si vous voulez, il faudra bien qu'on y arrive un jour, les origines de l'attentat contre les présidents, et moi j'attends quand même un peu avec impatience la sortie des conclusions de l'enquête du GIPO d'hier. Je vais dire, si ça change quand même beaucoup de choses, si par hasard le FPR ou M. Kagame qui a déclenché le génocide, quand même déclenché le génocide, je dis bien pas commettre, hein. Donc il faudra quand même qu'on en parle.
Et qu'est-ce que vous pensez donc de ces 6 plaintes, et en fait de ces 6 plaignants?
Mon sentiment, c'est que comment des citoyens comme ça, on se demande, même si certains étaient nés au moment des événements d'ailleurs, comment ressortent des plaintes 12 ans après? Comment ces gens ont réagi, d'autant plus que le gouvernement de Kigali contrôlait la situation, il n'y a pas de problème pour porter plainte à ce moment-là, ou déclarer des actions de l'armée française. Alors je sais bien que pour libeller des accusations c'est compliqué, je suis pas juriste, mais il n'empêche que ce qui apparaît aux yeux des médias et aux yeux de tout le monde, c'est que l'armée française était complice de génocide. Je m'interroge beaucoup sur ces plaintes qui sortent maintenant, qui à partir du cas particulier et de fautes éventuelles, plonge tout de suite dans les généralités et d'accusations de complicité de génocide. C'est ça qui ne me va pas.
Lors de Vulpian, ces militaires de Turquoise se sentent-ils soutenus par leur hiérarchie?
Alors j'ai posé cette question au général Tauzin, sa réponse est un peu amère. Personne, dit-il, ne m'a jamais demandé ce que j'avais vécu au Rwanda, et il évoquait, je pense, un soutien moral. Il me disait aussi qu'une seule personne l'avait écouté, Michel Alliot-Marie, ministre de la Défense. Alors, quant au soutien politique, ils émanent de ceux qui étaient aux affaires, comme on dit, à l'époque. Édouard Balladur, Alain Juppé, Michel Roussin, Dominique de Villepin, Hubert Védrine. On peut lire régulièrement leurs tribunes dans la presse.
Et où en est-on actuellement sur le plan judiciaire?
Alors, 18 mois après le dépôt des plaintes, le dossier n'est pas très avancé. Dès le départ, le parquet a cherché à freiner la procédure, c'est ce que je crois. Le procureur et le ministère de la Justice s'en défendent, mais en réalité, ils multiplient les obstacles. Ainsi, il a d'abord fallu entendre les plaignants avant d'accepter leurs plaintes pour vérifier leur préjudice. Ensuite, on a tenté de dissuader la juge Brigitte Reynaud d'aller au Rwanda pour procéder à leur audition, justement, mais elle l'a fait quand même. Plus tard, le procureur a essayé de faire classer sans suite 4 des 6 plaintes, mais en vain. Enfin, dernièrement, il essayait de faire annuler les auditions qui ont eu lieu au Rwanda au mois de novembre dernier, mais la chambre de l'instruction a estimé qu'il n'y avait aucune raison de le faire. Le parquet dira lundi soir au plus tard s'il se pourvoit en cassation ou pas contre cette décision. Conséquence donc, l'instruction commence à peine. Et en plus avec une nouvelle juge, Florence Michon, qui vient du parquet antiterroriste. Alors cette stratégie judiciaire est compréhensible, il s'agit d'une affaire hypersensible, diplomatiquement et aussi politiquement, en interne en France. En effet, au-delà de quelques éléments de l'armée qui ont peut-être quelque chose à redouter, ce sont les politiques eux-mêmes qui pourraient être inquiétés, et il ne faudrait pas qu'ils le soient avant l'élection présidentielle.
Et comment ces militaires se défendent-ils actuellement ?
Restons groupés, serrons les rangs. C'est ainsi qu'on pourrait résumer l'attitude de l'armée ces temps-ci concernant le Rwanda. Le général Lafourcade vient de créer une association qui s'appelle France Turquoise. Le colonel Hogard et le général Tauzin en font partie, plus tous ceux qui voudront défendre l'honneur de l'armée. Bref, l'heure est à l'offensive. Après des années de silence relatif, la Grande Muette se réveille en même temps que les attaques contre elle se précisent, mais elle ne donne pas pour autant le droit de parler à n'importe qui. Elle choisit soigneusement ses porte-paroles, un peu comme si elle avait peur des dérapages verbaux.
Laure de Vulpian, merci. Ce magazine a été réalisé par Yacine Bouza. Francis Pascal était à la technique. Vous pouvez réécouter ce magazine sur notre site internet franceculture.com. Et tout de suite, on retrouve Michel Simon et Projection Privée.
Projection Privée. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui au Festival de La Rochelle qui s'achève demain soir ou plutôt lundi matin puisque le dernier événement ce sera une nuit blanche organisée par les éditions Fayard et leur collection La Noire, donc c'est normal que ce soit une nuit blanche consacrée à des films criminels, mais nous sommes ici en fait pour parler